Voilà, bien sûr que les gens me posent la question et me disent, après ce voyage en Chine, comment vas-tu? Je dis, ben ça va bien, j'ai perdu 3 kilos. Ah bon? T'es malade? Je dis, non, j'ai dû manger avec des baguettes pendant 2 semaines. Mais vous rigolez, mais n'empêche que c'est de la persécution, ça. Quand vous les voyez arriver et qu'ils vous mettent 10, 15 places sur la table et que vous essayez tant bien que mal d'attraper un bout de viande ou bien 3 grains de riz, je peux vous dire que c'est une sacrée épreuve. Hein. Mais c'est très sanctifiant. Voilà. Ben voilà, j'ai perdu 3 kilos, je suis en pleine forme. D'ailleurs, la seule fois où j'ai réussi à attraper un bout de viande, j'ai réussi à la tirer jusqu'à moi. Puis au moment où j'allais enfin la mettre dans mon assiette, il est tombé dans le verre d'eau à Pierre Amé. Je vous promets. Mais voilà, on apprend de nos erreurs. Voilà, donc j'aimerais vous partager ce matin, voilà, bien sûr, ce que j'ai un peu vécu durant ces 2 semaines en Chine. Normalement, on aurait dû partir l'année passée. Et puis, je suis tombé malade et je me posais la question pourquoi. On se pose toujours la question pourquoi quand on tombe malade. Hein. Mais en fait, ce qui était super, c'est qu'entre-temps, le jeune pasteur de l'église de Réveil de Bienne, Benjamin Anchaud, qui est marié à une Chinoise, a pu se joindre à nous. En fait, il est entré aussi dans le comité de BIP pour la Chine. Et puis, voilà, il a été invité aussi à venir avec nous. Alors, c'était chouette parce qu'il parle un peu le chinois. Ses beaux-parents sont chinois, ils habitent à Shanghai. Et puis, ça a été l'occasion, donc avec Pierre Amé et Benjamin, de vivre cette expérience extraordinaire durant ces 2 semaines. Alors, on va le vivre en 3 phases, ce temps-là. Première phase, je crois que c'est bien de se replonger dans l'histoire des chrétiens de Chine. On ne se rend pas compte hein, de ce qu'un peuple a pu vivre, de ce que les chrétiens de ce peuple ont pu vivre durant des décennies, voire même plus, peut-être des centaines d'années. Et il y a un petit court-métrage de 10 minutes environ qui vous replonge en fait dans l'histoire des chrétiens de Chine. David, salut. Et puis dans un deuxième temps, il y aura une petite introduction. Dans un deuxième temps, il y aura aussi environ 10 minutes un résumé, parce que 2 semaines, c'est difficile de faire un film en 2 semaines, en 10 minutes. Mais il y a des temps forts comme ça et vous verrez un petit peu dans quoi nous avons été plongés réellement durant ces 2 semaines. Puis je terminerai avec un court message, parce que depuis que je ne suis plus pasteur en titre, j'ai des courts messages. Voilà, let's go. Voilà, ça vous donne une petite idée quand même hein, de ce qu'on a vécu. Merci. Voilà, j'aimerais terminer avec un court message, je vous ai promis, parce que c'est sûr que c'est très inspirant de vivre ce genre d'expérience. S'ils avaient l'occasion de le vivre sous d'autres latitudes, hein, on sait qu'il y a des besoins partout, qu'il y a des chrétiens partout, des persécutions dans beaucoup de pays, et d'aller une fois sur place, de voir de nos yeux, de toucher de nos mains, d'entendre de nos oreilles, c'est quelque chose de plus, hein, même si on voit des... Et on lit des témoignages. Voilà, j'aimerais lire avec vous un passage dans Ésaïe au chapitre 55, verset 11. Vous avez vos Bibles avec vous ?
Non.
Ouais, voilà, la différence entre la Chine et la Suisse. On oublie sa Bible à la maison, non ? Alors nous, on a une immense frayeur parce qu'on s'est dit, ça y est, c'est la fin de Bible pour la Chine. Pourquoi ? Parce que le pays est infesté de iPhone, de téléphones portables et tout. Dans les métros, tout le monde a son téléphone portable. Et dans les églises maintenant, la moitié des gens, en tout cas, c'est sur le téléphone portable qu'ils lisent la Bible. Alors on s'est dit, oulala, c'est pas bon pour vivre pour la Chine. Hein. Mais comme les chrétiens se convertissent par milliers, chaque semaine, c'est des milliers de chrétiens qui se convertissent. Et même si le gouvernement permet l'impression d'environ 5 millions de Bibles par année, c'est ce qu'ils disent, hein, on ne suit pas. On n'arrive pas à suivre parce qu'ils disent, mais continuez d'envoyer des Bibles, c'est ça qui fait la différence. Hein? Voilà. Donc, Ésaïe 55, il ne faut pas que je me laisse entraîner sur les bas-côtés. Là. Alors, on va faire comme en Chine, on va lire tous ensemble, entre ceux qui ont leur Bible. Hein. Vous y êtes, même si on n'a pas tous les mêmes traductions. Hein. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà. Ça, c'est une promesse de Dieu. C'est une parole de Dieu. Et l'autre passage que j'aimerais lire avec vous, c'est dans Luc au chapitre 4. C'est au moment où Jésus entre dans la synagogue à Nazareth. Et il est au début de son ministère et il va prendre le rouleau du livre d'Ésaïe. Vous savez, c'était des rouleaux. Hein, on les sortait de leur four, ils étaient dans une armoire, on la sort, on la pose sur la table et on fait la lecture du passage d'Ésaïe au chapitre 4, donc de Luc, chapitre 4, verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, cette parole de Dieu est accomplie. Ce qui m'a frappé en voyant les chrétiens là-bas, les églises que nous avons visitées, on a visité environ, je crois, une dizaine ou douzaine d'églises, c'est de découvrir l'impact de la parole de Dieu parmi eux. C'est impressionnant de voir ce que cette parole produit comme effet, comme fruit, hein, on en parlait ce matin, et comme conséquence. Donc, Bible pour la Chine existe à cause de ça. Le but, c'est de dire, si chaque Chinois peut recevoir une Bible, c'est une puissance incroyable qui est entre leurs mains, qui est la seule capable de mettre en déroute ces puissances maléfiques qui sont là sur ce pays, parce que le communisme, c'est quelque chose de maléfique. C'est athée depuis le début à la fin, et à chaque fois, même s'il y avait des moments de ciel bleu où les nuages s'écartaient, très rapidement, il revenait sur le pays. Donc, on peut s'attendre à ce qu'aujourd'hui ou demain ou dans les mois qui viennent, il y ait de nouveau une persécution massive des chrétiens. Mais ils sont quand même entre 130 millions et 150 millions. Donc, ça fait un Chinois sur 10 actuellement qui est chrétien. Donc, ça va être difficile de restreindre tout ça. Donc, c'est émouvant de voir ces personnes, on a vu dans plusieurs églises, recevoir leur première Bible. On ne peut pas décrire ce qui se passe sur leur visage. Et on ne peut pas décrire non plus ce qui se passe dans leur cœur. Et je crois qu'on a tous reçu une première Bible, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, là, la première fois que vous avez reçu? Moi, je me souviens, je l'ai encore d'ailleurs. Hein. C'est un moment charnière de notre existence. C'est un moment clé de notre existence. Je me dis, si j'avais vécu sans la Bible, je n'aurais pas pu connaître Jésus. Oui, j'aurais entendu des témoignages, mais c'est cette parole qui nous permet d'entrer plus à fond dans la pensée de Dieu, dans la présence de Dieu. Donc moi, ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement les regards, les yeux pétillants, les sourires et la joie qui étaient là sur leur visage quand ils recevaient des Bibles, et aussi à l'idée d'aller en porter à gauche, à droite, mais c'est de voir ce qu'ils en font. Parce qu'on peut avoir une Bible chez soi, mais qu'est-ce que j'en fais de cette Bible, hein? Je me dis, oui, mais c'est naturel, on la lit. Et moi, ça m'a étonné de voir, dans le fond, les conséquences, la résultante du fait de posséder une Bible. Qu'est-ce qu'ils vont en faire là-bas? Vous savez, ces églises, en tout cas celles qu'on a vues, et délibérément, on n'a pas été visiter beaucoup d'églises dans les grandes villes. Il y en a beaucoup, mais on est allé surtout dans les campagnes. Ces églises sont composées de gens très simples. Hein? C'est des gens, des campagnards, vraiment. Et comme le disait l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 1:26, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles parmi vous. Et ça, on pouvait le voir, vraiment. Hein? Ces visages tout burinés, on savait qu'ils avaient traversé ces épreuves, peut-être certains encore de la dernière guerre ou après la dernière guerre sous le communisme. Bon. Mais Paul rappelle dans ce passage, si vous regardez dans 1 Corinthiens 1, 26, alors c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de puissants, mais il y a quelque chose d'incroyable par rapport à ces personnes-là. Au verset 26, il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon l'âge, etc. Mais Dieu a choisi les choses folles. C'est Dieu qui a fait le choix. C'est Dieu qui a fait le choix de se révéler d'une manière spécifique. Et puis, il est dit aussi que Dieu a appelé. Donc c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui appelle. Et quand Dieu choisit et appelle, franchement, ce n'est pas un problème pour lui. Il n'est pas vraiment emprunté d'avoir des gens simples devant lui, d'avoir des gens de peu de sagesse devant lui, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ni humains, ni financiers. Dieu n'est jamais embarrassé par quelqu'un qu'il appelle et qu'il choisit. Bien au contraire, parce que lui sait très bien ce qu'il va pouvoir faire au travers de cette personne, au travers de toi, au travers de ces Chinois que nous avons rencontrés dans les campagnes. Il sait exactement ce qu'il est capable de faire. Moi, je me souviens, c'est une petite anecdote, à l'école, moi j'étais sportif, et vous savez comment ça allait à l'école. On avait les heures de gymnastique pendant la semaine, et puis à un moment donné, on faisait des équipes. Alors, comme par hasard, j'étais le chef d'équipe, bien sûr, et c'est moi qui devais choisir ceux qui allaient être dans mon équipe. Alors, bien sûr, je choisissais toujours les meilleurs, les plus sportifs. Je ne choisissais jamais quelqu'un que je savais être peu sportif ou un petit peu, qui n'aimait pas trop courir, qui n'aimait pas se donner, etc. Alors, j'essayais de prendre les meilleurs dans mon équipe. Mais à la fin, il restait quand même toujours quelques-uns qui comprenaient. Hein. Mais Dieu ne fait pas ça. Quand il choisit, quand il appelle, il sait exactement ce qu'il peut faire au travers de ta vie. Et ça, c'est extraordinaire de penser que moi, je ne sais pas que faire. Mais Dieu, lui, sait. Donc, Dieu sait ce qu'il va faire avec des faibles, avec le vil, avec le chétif, avec le peu sage, le peu puissant, le peu noble. Hein. Il va être rendu capable d'accomplir des choses incroyables à l'instant même où il entre en relation avec sa parole. Parce que c'est Dieu qui parle. Hein, j'entends. Voilà. Il y a des paroles qui sont couchées dans la parole. Elles sont là. Hein. Donc il va nous transmettre sa parole. Et puis, qu'est-ce qu'on va en faire de cette parole? Une fois qu'il nous a révélé sa parole, ce que Dieu désire faire, et c'est ce que j'ai vu d'une manière, bien sûr qu'on le voit aussi ici, hein, ce n'est pas spécifique à la Chine, mais j'aimerais vous encourager ce matin par rapport à ça, c'est que Dieu ne veut pas seulement qu'on étudie la parole, qu'on lise la parole, qu'on philosophe sur la parole, qu'on fasse des études bibliques sur la parole. Il veut que cette parole s'actualise dans nos vies, qu'elle devienne vivante, parce que c'est une parole vivante. Hébreux 4.12, car la parole de Dieu est vivante. Mais quelqu'un qui est vivant, il bouge, hein, il se déplace, il parle, il fait des choses. Hein. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et pour moi, le secret de la vitalité de l'Église de Chine actuellement, c'est qu'ils offrent un aujourd'hui à la parole de Dieu. Alors je vais m'expliquer. Ils offrent un aujourd'hui à la parole de Dieu. Ça, c'est pour moi un des secrets de cette immense croissance que cette Église vit en ce moment. Ça a l'air de rien, on ne le voit pas, ce n'est pas écrit. Certains articles de presse nous disent que le christianisme est en train de se répandre d'une manière incroyable en Chine, mais on ne le voit pas nulle part, si ce n'est qu'en prenant contact avec ces églises qu'on appelle souterraines ou autres. Donc, cette Église s'inspire directement de l'exemple de Jésus. Et on verra plus tard que l'Église primitive, elle aussi, est entrée dans cette vision-là. Elle a donné un aujourd'hui à la parole de Dieu. Alors, quand on lit Luc, comme on vient de le faire, au chapitre 4, verset 16, donc on voit Jésus se rend à la synagogue. Il déroule ce rouleau du livre d'Ésaïe devant lui. Et il lit. Mais il lit quoi? Il lit ce qui est écrit. Et à la fin de la lecture, qu'est-ce que Jésus va faire? Quelque chose que personne n'a osé faire jusque-là. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, elle vient à la vie. Cette fois, elle va accomplir le dessein pour lequel elle a été proclamée. Quand Dieu proclame une parole, c'est pas un beau parleur, Dieu. Quand il proclame quelque chose, il sait que cette parole va avoir un effet particulier et retourner à lui en ayant fait son effet. Donc Jésus va donner un aujourd'hui à cette parole. Elle entre dans sa phase d'accomplissement. Depuis combien de temps elle était écrite, cette parole? Parole d'Ésaïe. Dieu avait parlé à un homme qui s'appelait Ésaïe, qui est devenu le prophète Ésaïe. 800 ans. Ça fait 800 ans que cette parole était écrite et était couchée dans ce rouleau du livre d'Ésaïe. Depuis combien de temps Dieu a-t-il parlé? 800 ans. Depuis combien de temps cette parole était-elle couchée dans ce livre, attendant son heure? Cette parole attendait son heure. Parce que Dieu ne parle pas dans le vide. Et Jésus, à ce moment-là, donne un aujourd'hui à cette parole. Elle va s'actualiser. Il va offrir sa vie pour que cette parole devienne vivante au milieu des hommes. Pour que la parole de Dieu, vivante et efficace, puisse accomplir son dessein. Et quand on lit la suite du texte, on le voit dans plein de passages où Jésus chasse un esprit de démon impur d'une personne. Chapitre 4, verset 33. Il libère la belle-mère de Pierre de sa forte fièvre. Il guérit les malades atteints de toutes sortes de maladies. Donc on voit que cette parole reçue, elle va s'accomplir. Et après Jésus, comme je l'ai dit, l'Église primitive aussi va s'offrir pour donner à cette parole l'occasion de s'accomplir aujourd'hui. En Acte 6, verset 7, il est dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples s'augmentait de jour en jour. » Donc la parole de Dieu se répandait, conséquence, c'est qu'il y a de plus en plus de chrétiens. C'est exactement ce que vous voyez en Chine. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. C'est ce que l'Église de Chine fait. Parce que ces gens, ils ne sont pas dupes. Ça fait maintenant 80 ans qu'ils vivent sous un régime communiste. Un régime absolument athée. Même s'il y a eu quelques petites embellies, c'est un régime qui restera le même jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc on peut s'attendre à tout. Et ces gens ne sont pas dupes. Des discours et des belles paroles, ils en ont entendu pendant des décennies. On leur a promis monts et merveilles. Quand vous écoutez les discours de Mao, qui promet à tout le peuple un degré de qualité de vie extraordinaire, ben il s'est planté complètement. Il a fallu, heureusement, que des hommes un tout petit peu plus sages que lui reprennent le gouvernement de ce pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors là ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand vous débarquez dans une ville comme Pékin ou Shenyang ou Shanghai ou d'autres, waouh. Je peux vous dire que nous, les Suisses, on peut se tenir tout. Impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire en l'espace de 20 ans maintenant. Vous avez des autoroutes, 4 pistes de chaque côté, sur des centaines de kilomètres. Il y a même des gars qui sont là, qui ramassent les papiers le long de l'autoroute. Il n'y a pas un papier qui traîne. Ouh, la propreté chinoise. Vous allez dans ces villes, d'énormes bâtiments, des centaines de bâtiments, des magasins ultra modernes. Je tombe là, à Shenyang, on était dans une rue commerçante, je tombe sur une boutique Mido. Vous avez déjà vu une boutique Mido en Suisse? Ça n'existe plus, ça. Mido, nous on habitait à côté de la Mido à Bienne. Mido, magnifique boutique, superbe. Je rentre là-dedans, j'y dis, mais comment ça se fait en Suisse, on ne trouve plus. Ben voilà, ils ont des boutiques Mido. Voilà. C'est des montres. C'est voilà. Donc, ils n'ont rien à nous envier aujourd'hui. Ils n'ont rien à nous envier. Toutes des voitures modernes, mais incroyable de voir. Moi, je n'ai pas vu une voiture cabossée. Alors, vous avez de tout, bien sûr, des camions, des camionnettes, des vélos électriques, des pousses, mais tout est mélangé. Bref, mais ils n'ont rien à nous envier. Mais ce gouvernement, il se met le doigt dans l'œil, je peux vous le dire. Parce que Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement de belles voitures et de belles maisons, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, il l'oublie. Ça, le Parti communiste l'oublie. Et il y a une soif dans le cœur des Chinois de vraies paroles, d'authentiques paroles. Parce que même quand ils auront conduit leur belle Mercedes et leur BMW pendant quelques années, ben voilà, c'est qu'une voiture. Le cœur reste vide. Et le cœur des Chinois est assoiffé de vérité, de paroles qui font la différence. Et comme ils ont été trompés pendant 80 ans, ils se disent, bien sûr, une partie de la population dit « Oh, mais maintenant, on est bien. » Et c'est vrai qu'ils sont bien, honnêtement. Au niveau nourriture, il manquerait. Vous vous rendez compte? Pour alimenter une ville de 20 millions d'habitants chaque jour. Je ne vous mens pas. On était dans le train Pékin-Shenyang, au moins sur 10 kilomètres. On n'a vu que des camions sur des routes à je sais pas, 300-400 mètres de la voie de chemin de fer. Puis on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu un énorme accident pour qu'il y ait autant de camions les uns derrière les autres. Mais il n'y avait pas de voiture entre les camions. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent aux camions de rouler pendant la journée. Donc tous ces camions qui viennent des provinces s'agglutinent le long d'une route qui a été spécialement conçue pour ça. Et vous avez des milliers de camions qui a 8 heures, bram, première, deuxième, et il part dans tout le pays. C'est impressionnant. Bah, il amène la nourriture pour 20 millions de personnes chaque jour. Une ville, 20 millions. Hein, voilà. Donc on voit que ces gens ne sont pas dupes. Et quand ils reçoivent la parole de Dieu, ils l'actualisent, ils s'offrent à cette parole pour qu'elle devienne une parole vivante. Et c'est ça que j'aimerais vous laisser ce matin. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous mangez bien en Suisse, ça va? Vous êtes satisfait? Nous, on va chez les Bioré, on aura un repas super extraordinaire. Ben oui, puis après, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors je termine. Et l'Église en Suisse, les chrétiens suisses à La Chaux-de-Fonds, à Yverdon, on a été appelés, choisis aussi. Vous n'êtes pas devenu chrétien par hasard. C'est pas parce que c'est sympa, vous avez dit, ah, moi je suis chrétien, viens à l'Église, viens, puis voilà. Non, c'est parce que Dieu a fait un boulot extraordinaire. Il a fait un boulot qui dépasse l'entendement. Comment est-ce qu'il a réussi à toucher mon cœur? Je ne sais pas comment. Mais c'est par amour en tout cas. Hein? Donc, la question est de savoir, est-ce que je donne ou est-ce que j'offre à cette parole de Dieu l'opportunité de s'actualiser, d'entrer dans sa phase d'accomplissement? Ça, c'est la question que je vous laisse ce matin. Je ne peux pas répondre à votre place. Pratiquement, on a tous une Bible, hein, en tout cas au moins une. Hein, et des centaines de paroles sont couchées dans cette Bible. Des centaines. Et je la lis. Qui lit la Bible? Il y en a quelques-uns. Voilà. Alors, vous pouvez lire votre Bible toute votre vie. Qui la médite? Vous pouvez méditer la Bible toute votre vie. Qui participe à des rencontres d'études bibliques? Quelques-uns. Il y en a de moins en moins, hein, même. Parole de pasteur. Vous pouvez passer toute votre vie à étudier la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Aussi longtemps que je ne m'offre pas à cette parole, elle ne va pas s'actualiser. Si je ne donne pas un aujourd'hui à la parole, elle ne va pas s'actualiser. Elle va rester couchée dans le livre. Vous y avez déjà pensé à ça? Alors moi, j'aime ce moment où on peut prendre du temps à part et je vais à la rencontre de cette parole. Cette parole vient à ma rencontre et on passe un moment ensemble. Et puis elle me défie. Elle me dit, par exemple, moi je pense à moi là, hein, surtout quand je suis en voiture, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonnête. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonnête. Est-ce que c'est une parole de Dieu ou une parole de l'apôtre Paul ou... Non, c'est une parole inspirée. Elle vient à ma rencontre. Je dis, oh, désolé, moi cette parole, à demain, pas aujourd'hui. Vous voyez, vous pouvez jouer avec ça. Ça peut être demain, ça peut être le surlendemain, mais ça peut être jamais. Et je sais que certaines paroles, je les mets de côté parce qu'elles m'ennuient, parce qu'elles viennent me toucher dans des domaines encore fragiles de ma vie, peut-être. Et je remets à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Donc, elle ne va pas s'actualiser. Tu vas la savoir par cœur, tu vas la comprendre intellectuellement, tu vas savoir exactement où ça se trouve dans la Bible, mais elle ne prend pas vie en toi. Et c'est pourquoi on régresse ou qu'on n'avance pas. Et c'est pourquoi l'Église de Chine avance à grands pas. Parce que c'est des gens simples, et ils sont restés simples. Et ils disent, ah, Dieu dit ça, ben je le fais. Je m'offre à toi, oh, parole de Dieu, viens en moi. Ben, c'est Dieu qui vient en nous, c'est l'Esprit de Christ qui est en nous et qui va nous rendre capables d'accomplir ce qu'on ne serait pas capable de faire. On n'y penserait même pas. Vous en voulez d'autres, ces paroles? Ben, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu. Waouh! Si vous commencez à dialoguer avec cette parole, dites, oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être mort au péché? Mais non, mais tous les jours j'en commets. Oh, c'est... Voilà. Commencez à discuter avec cette parole. Et à un moment donné, vous prenez votre décision. Ok, cette parole, je l'actualise dans ma vie. Je décide qu'aujourd'hui, elle va devenir vivante en moi. Et à partir de ce moment-là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. L'Esprit du Seigneur va vous donner la force d'accomplir l'incroyable. Par moi-même, je ne peux pas le faire. Mais l'Esprit du Seigneur, il est là. Il va dire oui, il va dire non. C'est aujourd'hui ou c'est demain? Ou c'est jamais? Si c'est aujourd'hui, paf, le Saint-Esprit va commencer une œuvre. Bien sûr qu'on ne sera pas vainqueur dans les minutes qui suivent peut-être. Quoique. Mais à force de travailler, de laisser cette parole travailler nos cœurs, travailler nos vies, elle va devenir vivante en nous, puis elle va devenir vivante à l'extérieur. Les gens vont le voir. Ça s'entend, ça sent, ça se voit, n'est-ce pas? Alors voilà, je vous laisse ça ce matin, parce qu'il est dit dans Hébreux, et je termine avec ce verset, Hébreux 4, 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Moi, j'ai vu des chrétiens qui viennent tous les dimanches à l'église, tous les dimanches, qui lisent leur Bible tous les jours, et ils ont un cœur endurci. Ah ouais, ils ont un cœur endurci. Parce qu'ils ne laissent pas cette parole devenir vivante. Bien sûr qu'elle est là dans la bibliothèque de leur vie. Waouh, ils peuvent te faire une magnifique étude biblique. Mais dans leur quotidien, dans leur être profond, dans cet homme nouveau en Christ, elle n'a pas la place. Elle n'a pas la place. Alors voilà, hein, nous avons été choisis comme Jésus, comme les premiers chrétiens, comme les Chinois de Chine. Restons simples, offrons un aujourd'hui à la parole de Dieu. Là, nous verrons l'Esprit de Dieu nous rendre capables d'accomplir des choses qui vont nous étonner nous-mêmes, qui seront vraiment à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Prions. Je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour qui tu es d'abord, parce que tu es un Dieu vivant et un Dieu qui parle. Et nous te remercions pour toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche. Il y en a certaines, ça nous dépasse complètement, on ne les comprend pas, mais il y en a tellement d'autres qui sont simples. Et nous voulons te prier ce matin pour que cette parole puisse trouver son aujourd'hui en nous. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous aides les uns et les autres à être sérieux avec ta parole et à la laisser faire son œuvre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle soit revenue à toi en ayant fait son effet. Pardon pour toutes les fois où on remet à demain ce que tu nous invites à faire aujourd'hui. Et je te prie pour chacune et chacun d'entre nous ce matin, afin que nous puissions progresser dans ce domaine, être des chrétiens vivants, une église vivante, parce que ta parole est vivante. À la gloire de ton nom. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse.